Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui veut donner, envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères et bien chers amis, nous commençons aujourd'hui le chapitre 18 de l'Évangile selon Saint Matthieu, donc sur le polycopier qui couvre les chapitres 16 à 20. La page 17, il y a des passages très importants dans cet Évangile, notamment les passages sur le scandale qu'il faut bien connaître. Voyons les premiers versets, versets 1 à 6. À cet instant, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, à moins que vous ne vous convertissiez et que vous ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une de ces meules qu'un âne tourne et qu'on le plongeât au fond de la mer. » Alors, essayons d'abord de comprendre les raisons de cette espèce de jalousie qui s'est allumé dans le cœur des apôtres. Donc ils ont compris que Saint-Pierre était placé par notre Seigneur Jésus-Christ au-dessus des autres apôtres, puisque le même impôt avait été payé pour Pierre et pour le Sauveur. Donc ils ont conclu logiquement que Pierre était placé au-dessus de tous les autres apôtres. N'oublions pas que nous sommes encore avant l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, qui sont encore très humains. Ils n'ont pas encore mortifié complètement leur volonté, leurs défauts. Ces apôtres ne sont pas nés canonisables. Ils avaient des défauts. Ils ont dû travailler bien fort sur leurs défauts pour devenir des grands saints. Et ils vont tous devenir des grands saints, sauf évidemment Judas. Donc ils ont une espèce de honte d'avouer leur sentiment de jalousie qui les domine. Donc ils ne vont pas demander directement à notre Seigneur Jésus-Christ « Pourquoi avez-vous honoré Pierre plus que nous ?» Donc ils vont utiliser un moyen direct, ils sont malins. Ils vont dire à notre Seigneur, demander à notre Seigneur « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Nous ne cherchons pas à savoir quel est le plus grand dans le royaume des cieux, mais quel est le plus grand dans les royaumes de la terre. Ils ont encore un esprit beaucoup trop terrestre. Donc cette pensée de jalousie leur inspira un sentiment naturel et tout humain, disent les pères. Et notre Seigneur Jésus-Christ va justement leur rappeler que s'ils n'apprennent pas l'humilité, il va donner comme exemple d'humilité les enfants. Si vous ne devenez pas humble et petit comme ces petits-enfants, bien vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc il veut leur montrer l'importance de l'innocence et que cette crise de jalousie dans laquelle ils tombent montre qu'ils n'ont pas encore cette humilité qui est nécessaire pour avancer vers le royaume des cieux. Alors les pères discutent entre eux pour savoir qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que représente ce symbole d'innocence. Certains vont même jusqu'à penser que Notre Seigneur Jésus-Christ s'est lui-même placé au milieu d'eux comme un petit enfant, lui qui n'était pas venu pour être servi, afin de leur donner un exemple frappant d'humilité. D'autres pères pensent que ce petit enfant représente l'Esprit Saint, que Jésus plaça dans le cœur de ses disciples pour changer leur orgueil en humilité. Et là, il y a un très beau texte, je crois que c'est de Saint Jean Chrysostome, le grand docteur de l'Église grecque. Donc pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ présente l'enfant comme un symbole d'innocence? Saint Jean Chrysostome répond parce que l'enfant ne persévère pas dans sa colère, il oublie les injures, il ne met pas son plaisir dans la vue d'une belle femme, il ne parle pas autrement qu'il ne pense. Et notre Seigneur de conclure, à moins d'avoir cette innocence, cette pureté d'âme, vous ne pourrez rentrer dans le royaume des cieux. Encore une fois, le signe du démon, c'est l'orgueil. Rappelons-nous les trois signes par lesquels on peut reconnaître justement le travail du démon dans une âme, dans une intelligence, toujours les mêmes, à savoir les richesses, les honneurs et l'orgueil. Les richesses entraînant les honneurs entraînant l'orgueil, alors qu'au contraire, face à ces trois signes, chez les enfants et chez les vrais catholiques, les catholiques qui ont le cœur d'enfant, eh bien on trouve les trois signes opposés. On va trouver la pauvreté, l'humilité, le mépris du monde. Et les catholiques seront méprisés eux-mêmes par les gens du monde. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ place un enfant au milieu d'eux et leur dit, en vérité, je vous le dis, à moins que vous ne vous convertissiez, que vous ne deveniez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ces enfants, disent les pères, sont aussi tous les fidèles. À savoir que lorsqu'un fidèle pratique la vertu d'humilité, il devient comme un petit enfant devient le bon Dieu, devant le bon Dieu, et le bon Dieu va le prendre près de lui pour le bénir et lui donner plus de grâce. Ces enfants sont donc aussi les fidèles à cause de leur obéissance à la foi, car ils se font gloire de suivre leur père et d'aimer leur mère. Ils ignorent ce que c'est que de vouloir le mal, ils négligent les soucis des affaires, n'ont ni arrogance, ni haine, ni habitude de mensonge. Ils croient ce qu'on leur dit et tiennent pour vrai ce qu'ils entendent. C'est la continuation, je pense, du texte de Saint Jean Chrysostome. Et donc, celui qui croit au Fils de Dieu et vit d'une manière conforme à l'Évangile par la vertu d'humilité s'est transformé jusqu'à devenir semblable à un enfant. Au contraire, celui qui n'a point subi cette bienheureuse transformation ne peut entrer dans le royaume des cieux parce qu'il est tombé dans l'orgueil. Ainsi, dans la multitude innombrable de ceux qui ont embrassé la foi, disent les pères, il en est qui sont nouvellement convertis, qui travaillent à devenir ensemble, à devenir semblables à des enfants, mais qui ne sont pas encore devenus. Ces derniers sont faibles en Jésus-Christ, peuvent facilement être scandalisés. Et donc, quant au Seigneur Jésus-Christ, de conclure, quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Alors, il faut comprendre que la vertu d'humilité est... Les pères disent, la vertu d'humilité, c'est comme le terreau dans lequel on peut planter la graine. La graine, c'est la graine de la foi. Mais pour que la foi, comme graine, puisse grandir et germer, il faut un bon terreau. Il faut un bon degré d'hygrométrie dans le terreau, suffisamment d'humidité pour que la graine puisse germer. Et bien, ce terreau, c'est l'humilité. Pas d'humilité, la graine ne peut pas germer. Et non, puisque la grâce ne détruit pas la nature, si l'humilité n'est pas là pour préparer l'arrivée de la grâce, eh bien la grâce ne peut rien faire. Le démon le sait, voilà pourquoi il pousse tant dans le monde moderne, tant à ce que les gens tombent dans l'orgueil, parce qu'ils savent, il sait très bien que l'orgueil est le principe même qui va pousser les gens à refuser la grâce. Le démon jalouse à longueur de journée, à longueur de temps, et jalouse les hommes qui ont la possibilité d'aller au ciel. Et donc pour leur couper, en quelque sorte, l'herbe sous les pieds, il les pousse dans l'orgueil, parce qu'il sait que lorsqu'ils sont tombés dans l'orgueil, ils perdent la possibilité d'aller au ciel. N'oublions pas que les pères de l'Église expliquent, j'ai déjà expliqué plusieurs fois moi-même, les pères de l'Église expliquent que la fin des temps arrivera lorsque le dernier élu aura pris possession de la dernière place laissée libre au ciel après la chute du tiers des anges. Un tiers des anges a suivi Lucifer qui hurlait « Je ne servirai pas, non serviable ». Et donc Dieu a dû créer, c'est l'interprétation de Saint Bonaventure, Dieu a dû créer les hommes pour remplacer, prendre la place des anges, place qui était laissée libre au ciel par la chute d'un tiers des anges. Et donc la fin du monde arrivera lorsque la dernière place sera utilisée par un élu. Et donc le démon le sait ça, et donc il fait tout pour retarder ce moment parce qu'il sait très bien que lorsque tous les hommes qui doivent être sauvés sont au ciel, eh bien les démons ce sera la fin du monde, et donc les démons vont retourner brûler en enfer et n'auront plus d'opportunité pour tenter les gens. Alors, voyons un petit peu ce scandale dont parle notre Seigneur. Malheur par qui le scandale arrive. Si quelqu'un scandalise un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une de ses meules qu'un âne tourne et qu'on le plongeât au fond de la mer. Je vais me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une disproportion entre le châtiment, jeter quelqu'un au fond de la mer avec une grosse meule de moulin autour de son cou, et le péché de scandale? Eh bien, en fait, il n'y a pas de disproportion, parce que le péché de scandale comporte en lui-même une malice terrible. Le péché de scandale, c'est un péché contre la justice, en fait. Et tout péché contre la justice demande une réparation pour que la justice soit rétablie. Et il est très difficile, voire même impossible, de réparer un péché de scandale. Et rappelez-vous ce qu'est le péché de scandale. On a déjà vu tout ça dans le cours de catéchisme. Le péché de scandale, c'est le péché par lequel je pousse l'autre au péché. Quand par mon mauvais exemple, je pousse l'autre autrui à offenser le bon Dieu, commettre un péché grave. Donc il faut se poser nous-mêmes cette question souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens sont en état de péché mortel à cause du mauvais exemple que j'ai pu leur donner parfois plusieurs années auparavant? Alors le problème, c'est qu'on pense souvent à accuser ses propres péchés au confessionnal, mais on ne pense pas à accuser les conséquences de ces péchés. C'est pour ça qu'il y aura à la fin des temps un jugement général pour qu'on voit justement les conséquences de nos péchés. Il est presque impossible de réparer un péché de scandale. N'oublions pas aussi qu'il n'y a pas que le scandale direct, il y a aussi le scandale indirect. Le scandale direct, c'est quand une âme directement tente autrui pour faire péché, pour faire tomber autrui dans le péché, volontairement ou non d'ailleurs. Il y a des gens parfois qui ne se rendent pas compte, plus exactement, qui ne réfléchissent pas aux conséquences de leurs actions et qui sont des occasions de péché pour d'autres qui ne se rendent même pas compte. La plupart, par exemple, des jeunes filles catholiques qui s'habillent de façon provocante, quand on leur pose la question, ne se rendent pas toujours compte des conséquences de ce qu'elles font. Pourtant, notre Seigneur Jésus-Christ a été très, très clair sur le sujet en disant bien dans son évangile que d'abord, malheur par qui le scandale arrive, mais il a aussi précisé que celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Or, les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux, c'est l'enseignement de Saint Paul, donc par conséquent, c'est la fin de la conclusion du syllogisme. Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise ne possédera pas le royaume des cieux, et donc comme une faute grave. Alors il faut réaliser ces choses-là. Le scandale direct et le scandale indirect sont très difficiles à rattraper. Qu'est-ce que c'est que le scandale indirect ? Le scandale indirect, c'est quand je laisse quelqu'un dont j'ai la charge, par exemple un père de famille, une mère de famille, qui laisse leur fille s'habiller de par façon provocante et qui dit rien, eh bien la maman est coupable d'un péché de scandale indirect et le papa est coupable d'un péché de scandale indirect. C'est lui qui a la plus grande responsabilité parce qu'il est chef de famille. Alors voyons un petit peu le symbole mystique de cette meule. Il vaudrait mieux pour lui, pour celui qui scandalise un de ses petits, qu'on suspendit à son cou une de ces meules qu'un âne tourne et qu'on le plongeât au fond de la mer. Ça laisse un peu rêveur ce texte quand on voit le scandale ambulant aujourd'hui qui court partout dans les rues du monde moderne contre les petits justement. Une chose qui me frappe le plus dans les dérives contre nature, en matière contre la pureté, c'est justement le nombre d'enfants qui sont mêlés à tout ça, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement de la part des enfants. Quand on voit des parents qui poussent leurs enfants de 8, 9, 10 ans à devenir des drag queens ou des drag kids ou des drag kings, ça laisse un peu rêveur, vous voyez. Alors, dans le sens mystique, en bas de la page 17 sur le polycopier, le supplice de la meule, c'est la peine de l'aveuglement spirituel. On devient comme un esclave, comme l'âne qui tourne la meule, qui a quelque chose sur les yeux pour pas être distrait, qui fait son mouvement de façon permanente, fait tourner la meule, et qui représente celui qui a une cécité spirituelle qui l'empêche de voir la vérité. Car c'est après qu'on leur a couvert les yeux que l'on fait tourner la meule aux animaux. Nous voyons ainsi aussi souvent les gentils désignés sous le symbole de l'âne, parce qu'ils sont enfermés dans l'ignorance d'un travail dont ils ne peuvent voir la fin. Donc celui qui est coupable d'un péché de scandale est comparé à l'âne et à la personne qui devient aveugle pour faire son travail. Et c'est le drame du péché de scandale, c'est qu'il est très très difficile de rattraper, de réparer ces choses-là, ces péchés contre la justice. Comment voulez-vous réparer, par exemple, si une jeune fille s'est habillée de façon provocante, un père de famille qui laisse sa jeune fille dans la maison s'habiller de façon provocante pour faire ses emplettes le samedi, il est responsable en tant que père de famille de tous les mauvais regards et toutes les mauvaises pensées, les mauvaises actions qui vont être commises à cause du caractère déviré de sa fille. C'est lui qui est responsable parce qu'il est chef de famille, qu'il n'a jamais voulu prendre ses responsabilités en main. Et le prêtre qui laisse faire ces choses, que je connais qui malheureusement ne disent rien, le prêtre qui laisse faire ces choses est encore plus responsable, parce qu'il a l'autorité en plus. Et donc, un père qui laisse commettre le péché de scandale indirect dans sa famille, ou même direct par ses enfants, et qui lui-même commet un péché de scandale indirect, et comme un âne qui fait tourner la meule, il voit plus rien, parce qu'on a mis sur les yeux de l'âne un voile pour qu'il ne puisse pas voir ce qui se passe à l'extérieur, et donc faire son travail de façon infinie. Alors c'est très difficile de rattraper, parce qu'il faudrait après un péché de ce genre, pour une jeune fille, qui pour reprendre le même exemple que j'ai pris tout à l'heure, on pourrait trouver des exemples aussi pour les hommes, rassurez-vous, mais pour une jeune fille qui s'habille de façon provocante, eh bien, il faudrait que pour rattraper tous ces péchés qu'elle a fait commettre, mais il faudrait qu'elle puisse avoir le contact avec tous ces hommes qui ont péché à cause d'elle, à cause de sa tenue vestimentaire, et que tous viennent au confessionnal, se confessent, retrouvent la grâce du bon Dieu, et s'ils ne sont pas baptisés, soient baptisés pour retrouver l'amitié du bon Dieu. Alors, pour les Juifs, au contraire, page 18, pour les Juifs, au contraire, la loi leur a tracé le chemin de la science, et s'ils viennent à scandaliser les apôtres du Christ, il aurait mieux valu pour eux qu'on leur eût attaché une meule de moulin au cou et qu'on les eût précipités dans la mer. C'est-à-dire qu'il leur eût été plus avantageux d'être condamnés aux durs travaux des gentils et de rester ensevelis dans les ténèbres du siècle, car c'eût été pour eux un moindre crime de ne pas connaître Jésus-Christ que de refuser de recevoir le Seigneur, le Maître des prophètes. Notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé qu'il était le Messie, d'abord par les miracles qu'il a accomplis, mais aussi en remplissant au pied de la lettre toutes les prophéties de l'Ancien Testament que les Juifs connaissaient par cœur. Donc les Juifs n'ont pas d'excuse de ce côté-là. Ils avaient tous les signes. Donc, pour d'autres pères, la mère, donc il est question ici à la fin du texte, et il vaudrait mieux pour celui qui est coupable d'un péché de scandale d'être jeté au fond de la mer avec sa meule autour de son cou. Cette mer, disent les pères, certains pères, ça représente le siècle dans lequel nous vivons. Et la meule de moulin, l'action des choses de la terre qui en étreignant l'âme et en la prenant comme au cou par des désirs insensés, la condamne à tourner péniblement dans le même cercle. C'est ce que fait l'âne qui fait tourner la meule. Donc on lui a mis quelque chose sur les yeux, il voit rien, il fait tourner la meule, et ça représente justement le pécheur qui ne se rend même plus compte qu'il commet des péchés, qui fait connaître des péchés, qu'il est coupable d'un péché de scandale, et qui continue pourtant, néanmoins, de pousser les autres en enfer par le mauvais exemple qu'il leur donne. Il y a d'autres phrases ici importantes des pères que j'ai mis à la page 18. Il en est plusieurs qui, en se séparant des actions terrestres et en voulant s'élever jusqu'à l'exercice de la contemplation sans prendre conseil de l'humilité, non seulement se précipitent dans l'erreur, mais encore détachent les faibles du sein de la vérité. Et le pire, c'est le scandale sur les enfants. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous ne devenez pas comme l'un d'entre eux, de ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et après, il redit, si quelqu'un scandalise un de ces petits, le scandale sur les enfants est terrible. Terrible. Et pour ça que ces péchés d'impureté commis sur les enfants sont des péchés beaucoup plus graves à cause des conséquences pour les autres âmes, les âmes des petits. Alors, d'autres textes ici des pères. Celui qui scandalise un de ses petits, il vaudrait mieux qu'il fût précipité dans la mer avec une meule au cou, car il eût été plus avantageux pour cette âme dépravée de se livrer aux affaires du monde que de faire servir les saints exercices de la contemplation à la perte d'un grand nombre. Il serait préférable pour lui que la passion pour les biens de la terre, passion qui est comme le poids auxquels sont attachés les insensés et les aveugles, l'entraîna à la mort. Donc la meule, qui pèse des centaines de kilos, représente les passions de la terre. Une comparaison aussi qu'on peut faire avec les épines. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans un autre passage, le passage du semeur, dit que la semence peut tomber sur le chemin, peut tomber sur les pierres, peut tomber dans les épines. Et les épines vont empêcher la graine de se développer. Elle va germer parce qu'il y a un petit peu d'humidité, un peu de terre. Donc elle va germer, mais au moment où la plantule cherche à s'élever vers le soleil, eh bien elle ne pourra pas le faire parce qu'il y a les épines qui sont là qui l'empêchent de se développer. Donc ces épines qui vont piquer la plante qui cherche à monter vers le soleil, et plus elle monte vers le soleil, plus elle est piquée par les épines, représentent justement les trois concupiscences, la chair, les yeux et l'orgueil. Et plus on met les pieds dans les concupiscences, à une de ces trois concupiscences, ou les deux ou les trois ensemble, bien plus on est en quelque sorte ligoté par ces mêmes concupiscences. Donc différents motifs, disent les pères, ont provoqué ces disputes, cette jalousie des apôtres, mais leur cause immédiate, on l'a déjà dit, fut que le Christ ne paya le dit drachme que pour Pierre. Les autres apôtres l'enviaient donc comme étant le préféré. Ils commencèrent à être anxieux de savoir s'il serait promu au premier rang. Leur ambition n'avait pas échappé au Christ, car ils regardaient encore le royaume des cieux comme un royaume de la terre, souvent considéré avec orgueil et possédé par la force des armes. Jusqu'au dernier moment, jusqu'à la passion, les apôtres vont dire, quand est-ce, Seigneur, quand allez-vous rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'ils pensaient encore à un pouvoir politique de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ était revenu sur la terre d'abord pour un royaume physique et un royaume matériel, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour un royaume spirituel. Certes, il veut, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, que tous les hommes reconnaissent son royaume, même ici-bas, puisqu'il est roi aussi ici-bas, il est roi de nos intelligences, roi de nos volontés, roi de nos cœurs, on a déjà expliqué tout ça. Mais attention, notre Seigneur Jésus-Christ, justement, est roi ici-bas pour nous préparer à une royauté bien plus importante, celle du ciel. Alors les apôtres, les pères de l'Église, pardon, se sont demandé quel était ce petit garçon que notre Seigneur Jésus-Christ a appelé, il a placé au milieu des disciples. Alors, sur le plan historique, il n'y a pas de certitude dans ce domaine. Beaucoup de pères, enfin, d'après ce que j'ai lu en tout cas, mais aussi des choses intéressantes dans Monseigneur Gaume, dans les biographies évangéliques, pensent que c'est Saint Martial. Saint Martial qui fut envoyé par Saint Pierre pour prêcher l'évangile dans les Gaules, qui convertit les habitants du Limousin, de Toulouse et du Bordelais. Bon. Cependant, historiquement parlant, d'autres historiens qui sont sérieux, d'autres saints, pensent que c'était en fait Saint Ignace d'Antioche, parce que Saint Martial, qui devint un disciple de Saint Pierre, était l'un des 72 disciples et il n'aurait pas pu être un enfant à ce temps. Donc il était trop âgé pour être ce petit enfant. D'autres pensent que c'est Saint Ignace d'Antioche. Bon, ce côté-là, il n'y a pas de déclaration de l'Église, on ne sait pas très bien, mais je pense que l'idée centrale, c'est quand même que c'est Saint Martial qui est représenté par cet enfant. Alors, l'accès au paradis se fait par l'humilité, c'est pour ça que si on ne devient pas comme un petit enfant, on ne peut pas rentrer au ciel, parce que l'humilité est la porte d'entrée et que sans elle, il n'y a pas d'accès au ciel, tout simplement. Donc Saint Antoine, vit un jour en esprit le monde entier rempli d'âmes voulant aller au ciel, mais prise au piège par des filets trompés par les démons, être précipité à l'enfer. Il s'écria donc avec des gémissements au Seigneur, mais qui évitera ces pierres, ces pièges? Et il a entendu la réponse du Seigneur, l'humilité leur permettra de les éviter. Donc l'humilité est le meilleur moyen d'éviter de se retrouver dans l'eau à barboter avec une meule de moulin autour de notre cou. Alors Satan tomba de son piège, de son siège pardon, d'archange à cause de l'orgueil. N'oubliez pas ce qu'a dit Lucifer. Je ne servirai pas Lucifer. C'était celui qui était le porteur de la lumière, le plus bel ange du ciel. Et cet orgueil est le vice opposé à l'humilité. Si l'humilité est comme le terreau dans lequel les grâces peuvent germer, l'orgueil est dur comme un rocher, si vous voulez. Et cet orgueil empêche la graine de la foi de germer. Donc, le premier don, c'est ça la première conséquence de l'humilité, le premier don qui est reçu par celui qui contemple la lumière divine. Et pour contempler cette lumière divine, il faut l'humilité. Si je suis plein d'orgueil, mes yeux sont fermés, je vois rien du tout, je ne peux pas contempler la lumière divine si je suis dans l'orgueil. Donc le premier don qui est reçu par celui qui contemple la lumière divine à cause de l'humilité est celui de la connaissance de soi-même. Et cette connaissance de soi-même correspond en fait à l'humilité. Quelqu'un qui a une connaissance de soi-même sait qu'il ne peut pas s'en tirer par ses propres forces, qu'il a besoin du bon Dieu. Et donc cette connaissance de soi-même représente dans ce cas-là, ce terreau dans lequel les graines des grâces de Dieu peuvent germer. Comme disent les pères d'une source, d'une rivière, personne ne peut boire sans d'abord vouloir s'abaisser pour puiser de l'eau. Ainsi, nul ne peut tirer l'eau vive du Christ, la fontaine de vie et de la rivière du Saint-Esprit, sans s'humilier, selon qu'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il faut relire ces passages et bien les comprendre, que le clergé et les religieux qui prétendent avoir une prééminence sur les autres méditent ce passage. L'humilité est nécessaire aussi et surtout pour les religieux, car de telles disputes scandalisent les gens du siècle et cela devient la cause de disgrâce et de critique contre la religion. Il était mieux pour eux de sombrer avec une meule de moulin dans les profondeurs de la mer que d'avoir été la cause de scandale pour un chrétien. Donc attention à cet orgueil qui a fait tellement de mal dans l'Église, pas simplement pour les religieux et les prêtres, mais aussi pour les fidèles. Et une petite note ici, je ne me rappelle plus pourquoi je l'ai placée à cet endroit-là, mais elle est intéressante, c'est à la page 17. Donc les pères de l'Église ici, je ne me rappelle plus pourquoi ils le placent à cet endroit-là, parce que ce n'est pas dans le texte qu'on commente, mais je vous l'explique quand même. C'est la phrase de l'Évangile qui dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Eh bien, saint Augustin a fait remarquer que cette petite phrase que prononce notre Seigneur « Moi et le Père, nous sommes un » confond tous les hérétiques. Parce qu'en disant « nous », c'est dans la première personne du pluriel, « Moi et le Père, nous sommes un », il établit la distinction des personnes. Donc c'est le « nous » de la très sainte Trinité. Et en disant « nous sommes un », par cette unité, il affirme l'unité de la nature divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et en disant « moi et le Père », il affirme l'égalité des personnes. Les trois personnes ont la même substance, la substance divine. Alors avançons dans ce chapitre 18, en bas de la page 18. Versets 7 à 9. « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Et là, vous avez un passage extrêmement fort. Si votre main ou votre pied vous scandalise, coupez-le, jetez-le loin de vous. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir deux mains ou deux pieds d'être jeté dans le feu éternel. Et si votre œil vous scandalise, arrachez-le, jetez-le loin de vous. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne du feu. Alors, ce texte est très important, il faut bien le comprendre. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ montre que notre main, notre pied ou notre œil peuvent être pour nous des occasions de péché. C'est pour ça qu'il dit, si votre main, votre pied vous scandalise. Donc comprenons bien ce texte. Si notre main, notre pied ou notre œil sont pour nous des occasions de péché, bien il faut les arracher, coupez-les, jetez-les loin de vous. Arrachez-les, jetez-les loin de vous. Pourquoi ? Parce que il vaut mieux, nous dit notre Seigneur, entrer au ciel avec un seul œil, un seul pied, une seule main, donc c'est-à-dire manchot, boiteux ou borgne, plutôt que de tomber en enfer avec les deux mains, les deux pieds ou les deux yeux. Ici, tous les pères de l'Église sont à peu près d'accord pour expliquer que ce passage parle des occasions de péché. Si nous avons autour de nous des occasions de péché qui sont volontaires, c'est que je vais les chercher, il est évident qu'il faut les couper de ces occasions de péché. Bon, faut bien comprendre ce qu'enseigne l'Église là-dessus. Je répète rapidement des choses que j'ai déjà expliquées en cours de catéchisme, mais comme on oublie rapidement certaines choses, il faut réexpliquer les choses tout le temps. Donc une occasion peut être une occasion volontaire, une occasion nécessaire. Alors si c'est une occasion nécessaire, à cause de notre devoir d'État, par exemple, je sais pas moi, un médecin ou une infirmière qui travaille dans un hôpital, à partir du moment où elle fait son travail, elle sera obligée de voir des cornus, par exemple. Bon, ben ça fait partie de son devoir d'État, en quelque sorte, parce qu'elle est infirmière ou qu'elle est docteur, ou qu'elle est médecin, et donc le bon Dieu donne des grâces d'État pour lutter contre certaines tentations. Par contre, si je vais chercher la tentation, cette occasion de péché devient pour moi une occasion volontaire. Donc, si une occasion est volontaire, une occasion volontaire prochaine de péché mortel, le simple fait que je garde dans ma vie de tous les jours une occasion volontaire prochaine de péché mortel, fait que je ne peux pas recevoir de l'absolution du prêtre dans ces cas-là, parce que je suis dans un état qu'on appelle un état de présomption. Je joue avec le feu, et jouant avec le feu, je ne peux pas recevoir l'absolution, puisqu'en fait, je garde dans ma poche, en quelque sorte, la volonté de péché. Et il faut savoir aussi, c'est l'enseignement de l'Église, que si un prêtre donne l'absolution à un pénitent qui garde dans sa vie de tous les jours une occasion prochaine volontaire de péché mortel, l'absolution est nulle. Parce qu'il n'y a pas de véritable contrition. La contrition nécessaire pour la validité de l'absolution. Et non seulement l'absolution est nulle, mais si un prêtre donne l'absolution à un pénitent, sachant très bien que ce pénitent garde une occasion prochaine volontaire de péché mortel, eh bien, le prêtre commet une faute grave. Parce que le prêtre est responsable des absolutions qu'il donne. Pour reprendre l'exemple que j'ai déjà expliqué en début de ce cours, donc imaginez une jeune fille qui, interrogée peut-être par le prêtre confessionnal, lui avoue qu'elle est habillée très souvent de façon provocante avec ses amis quand elle va faire ses 100 mètres le samedi, et qui refuse d'arrêter de faire cela, qui refuse de s'habiller de façon correcte, eh bien elle ne peut pas recevoir l'absolution, parce qu'elle garde une occasion prochaine volontaire de péché grave et de scandale pour elle et pour les autres. Et donc le prêtre ne peut pas lui donner l'absolution. S'il lui donne l'absolution, l'absolution est nulle, et en plus le prêtre commet une faute grave. C'est intéressant de voir que le grand saint Ignace de Loyola, dans l'ouverture des exercices saint Ignace, est obligé dès le début, dès la première page, presque la première ligne des exercices de Saint-Ignace, parle de ces occasions de prochaines volontaires de péché mortel. Donc la première phrase des exercices, c'est celle-ci: l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, et par ce moyen sauver son âme. Donc j'ai été créé par Dieu, je suis dans un état de créature, donc de dépendance, et donc j'ai des devoirs à remplir par rapport à Dieu qui a des droits sur moi. Immédiatement après, deuxième phrase, Saint Ignace de Loyola dit la chose suivante: les autres choses qui sont sur la terre, c'est-à-dire les créatures, les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin, sauver son âme, ou qu'il doit s'en dégager autant qu'elle en détourne. On retrouve exactement le texte de notre Seigneur. Si votre main, votre pied ou votre œil sont pour vous des choses qui nous détournent de la fin pour laquelle j'ai été créé, à savoir sauver mon âme, je dois me détourner de cette main, de cette pied, de cet œil qui me scandalise. les couper, les jeter loin, parce qu'il vaut mieux pour moi entrer dans la vie manchot, boiteux ou borgne que d'avoir deux mains, deux pieds et deux yeux et d'être jeté dans le feu éternel. Vous voyez ? Et donc, ce texte est extrêmement important. Alors, voyons par 10, page 19 ce que disent les pères de l'Église sur ce sujet, en plus de ce que je viens de dire. Alors, les scandales en tant que tels, même s'ils sont en soi une chose catastrophique, puisqu'ils amènent plein d'âmes en enfer, le scandale est une occasion qui pousse les autres, le prochain, à commettre des péchés graves et donc à aller se mettre sur le chemin de l'enfer. Mais les scandales aussi, nous disent les pères, réveillent les hommes, les rendent plus attentifs et plus sur leur garde et relèvent aussitôt celui qui tombe en lui inspirant pour l'avenir une plus grande vigilance. Dans certains cas, le scandale peut être aussi un motif d'humilité. Quand je me rends compte, je le vois tout le temps comme prêtre, pour reprendre l'exemple que j'ai donné en début de ce cours, lorsqu'une jeune fille se rend compte aux retraites, elle se rend très bien compte, parce qu'on explique toutes ces choses-là, elle se rend compte qu'elle a été une occasion de péché pour des tas d'hommes à cause de sa façon de s'habiller pendant des années, elle en éprouve une grande honte, et en général, avec la grâce du bon Dieu, après la retraite, change complètement sa garde-robe et ses habitudes de vestimentaire. De même qu'un père de famille qui suit la retraite, et qui prépare son examen de conscience, qui prépare sa confession générale, qui se rend compte que sa fille a perverti ou a détruit les âmes de beaucoup d'hommes par les mauvais exemples qu'elle a donnés à l'état d'homme par sa façon de s'habiller, son manque de modestie et de pudeur vestimentaire, eh bien, prend conscience de la responsabilité et cherche à rattraper et change de vie avec la grâce du bon Dieu. Les pères font la remarque que l'humilité de la passion a été un scandale pour le monde. Parce que les hommes se rendaient très bien compte que derrière la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait la vertu d'humilité. Et à cause de l'orgueil qui mène le monde, eh bien, évidemment, ils n'ont pas voulu changer. Rappelez-vous, les tentations, c'était le premier évangile du temps de carême, les trois tentations, tentation de transformer les pierres en pain, tentation par le démon qui prend le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le place au sommet du temple, et après, tentation par laquelle il le place au sommet de la montagne, en disant, je vous donne tout, si vous tombez à genoux, vous m'adorez. Et ça présente, évidemment, encore une fois, les trois concupiscences. Donc les yeux, le désir de tout avoir, l'orgueil, la vaine gloire, et tous les péchés d'impureté, les pierres qui se transforment en pain représentent d'après les pères la sensualité. On a déjà vu, je crois, tout ça. Si mes souvenirs sont exacts, c'est au chapitre 4 de Saint Matthieu. Et donc il faut un petit peu réfléchir à tout ça. Et donc, contre ces trois concupiscences, et c'est aussi à utiliser contre les péchés de scandale, quand je réalise que j'ai scandalisé le prochain par le mauvais exemple que j'ai donné, il faut rattraper ces péchés de scandale. Et les moyens de rattraper ces péchés de scandale, c'est aussi les trois moyens qu'utilisaient les pères pour lutter contre les trois concupiscences, à savoir l'aumône, le jeûne et la prière. L'aumône contre la concupiscence des yeux, le jeûne contre la concupiscence de la chair, et la prière contre l'orgueil de la vie et la vaine gloire. En effet, ce qui retient le plus les hommes dans l'ignorance des mystères du salut, disent les pères, en haut de la page 19, c'est qu'ils n'ont pas voulu reconnaître le Dieu de la gloire éternelle sous le dehors ignominieux de la croix. Or, qu'y a-t-il au monde de plus dangereux que de ne pas recevoir Jésus-Christ ? Et pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, il faut recevoir la croix. Donc, notre Seigneur va déclarer, donc, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, si notre Seigneur déclare qu'il est nécessaire qu'il arrive des scandales, parce qu'il fallait qu'il subisse toutes les humiliations de sa passion pour accomplir le mystère qui devait nous rendre la bienheureuse éternité. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser le scandale, par exemple, donné par Judas, qui va vendre son maître pour de l'argent. L'argent sonnant est trébuchant, mais n'oublions pas ce qu'a dit notre Seigneur à propos de Judas. Il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. C'est terrible. Donc ces scandales qui arrivent sont les anges de Satan. Cette sentence, qui est générale, atteint en particulier Judas, ce que je viens de dire, qui avait déjà préparé son âme à la trahison. Et sous cette domination générale, dit Saint-Hilaire, le Christ veut désigner le peuple juif, auteur de ce scandale qui a eu pour objet la passion de Jésus-Christ et qui a exposé le monde au danger de renoncer à cause même de sa passion à Jésus-Christ, dont la loi et les prophètes avaient annoncé les souffrances. Je vous l'ai déjà dit, par l'application, le fait que notre Seigneur Jésus-Christ a rempli toutes les prophéties qui le concernaient et aussi par tous ces miracles qu'il a donnés, il a donné une preuve aux Juifs qu'il était le Messie. Par exemple, on voit très bien au moment de la crucifixion, notre Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Donc il est crucifié, mais il est encore vivant. Mais il va prononcer devant tous les Juifs qui sont devant lui, qui veulent bien sûr qu'il va vraiment mourir, il va prononcer le psaume 21 qui commence par ces mots: « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?»« Deus, Deus, menos quam et deliquistime » Donc, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Il y a tout le psaume 21 qui va être prononcé par notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 21 que tous les Juifs connaissaient par cœur, tous les adultes au moins, ils connaissaient par cœur et ils savaient tous que ce psaume 21 avait été écrit par le roi David 1000 ans auparavant et qu'il annonçait la mort du Messie. C'est dans ce psaume 21, par exemple, qu'on a la fameuse phrase: ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. Ils ont tiré au sort ma tunique et tous les Juifs qui étaient là ont pu voir que notre Seigneur Jésus-Christ était crucifié, avait des clous dans les mains et les pieds. Et donc le scandale est un scandale, si vous voulez, pour les Juifs. Ils ont été scandalisés par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, mais malheureusement, certains se sont convertis. N'oublions pas que tous les premiers apôtres, tous les premiers évêques, tous les premiers chrétiens, étaient pratiquement tous, au moins au début, des Juifs convertis. Notre Sainte Vierge Marie était de race juive. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans son humanité, était de race juive. Tous les apôtres, sauf Saint Paul, étaient aussi de race juive. Donc ils se sont convertis à la foi catholique, mais malheureusement beaucoup ont refusé de se convertir et ne pourront pas sauver leurs âmes parce que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Donc le mot scandale, un scandalus en latin et en grec, et ce mot scandale veut dire c'est la petite pierre qui empêche de marcher, donc une petite pierre, un petit caillou qui est dans la chaussure qui nous empêche de marcher correctement. C'est ça le scandale. Donc on peut traduire par pierre d'achoppement, par chute ou choc des pieds. Mais en soi, le scandale, ce qu'on appelle le scandalum, c'est la petite pierre qui est le petit caillou qui est dans la chaussure qui nous empêche de marcher parce que le petit caillou dans la chaussure nous blesse les pieds et donc il faut l'enlever pour marcher correctement. Et tant que je n'ai pas enlevé cette pierre de scandale, ben je peux pas marcher normalement. Et bien, c'est l'image très belle avec la vie spirituelle. Tant que je garde une occasion prochaine volontaire de péché mortel, que ce soit la concupiscence face à la concupiscence des yeux de l'orgueil et concupiscence de la chair, eh bien je ne peux pas marcher normalement sur le chemin qui mène au ciel. Et donc je boite, et boitant je ne peux pas aller très vite, et la porte du ciel sera fermée avant que j'arrive. C'est ce qui se passe. Donc celui qui scandalise son frère, par une parole dure ou une action contraire à la règle, devient pour lui une occasion de chute. Donc il faut vraiment se poser cette question, et c'est des choses, j'ai remarqué quand je prêchais chez l'Église Saint-Ignace, c'est des choses que la plupart des gens ne pensent pas, ils ne pensent pas aux conséquences de leur péché. Ils pensent à leur péché personnel, ce qu'ils ont commis, mais ils ne pensent pas aux conséquences des péchés pour les autres. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ retranche donc d'une manière absolue tout prétexte fondé sur les liens du sang et de l'amitié, pour que les fidèles ne soient pas exposés au scandale par suite d'un sentiment d'affection quelconque. Donc si votre main ou votre pied ou votre œil vous scandalise, c'est cette main ou ce pied ou cet œil qui scandalise, c'est peut-être un membre de la famille. C'est peut-être un membre de la famille, et si par amour filial ou par amour paternel ou maternel pour mon enfant, je ne dis rien alors je devrais dire quelque chose, je suis responsable du péché. Hein, je vois parfois, malheureusement, dans certains cas, un enfant qui se met en ménage, un jeune adulte qui se met en ménage, qui se met en concubinage avec une jeune fille. Les parents le savent et disent rien. Laisse courir parce que tout le monde le fait sous prétexte que tout le monde le fait, qu'ils veulent pas tout casser avec la famille. attention, dans certains cas, vous êtes responsable, pas toujours. Je connais des parents qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour éduquer correctement leurs enfants, qui se retrouvent avec des enfants impossibles, qui vivent dans le péché jusqu'au cou. Ce moment est évident que les parents ne sont pas responsables. Si quelqu'un, leur dit-il, vous êtes aussi étroitement unis que votre main, votre pied, votre ouïe, et s'il est pour vous d'une utilité incontestable, plein de vigilance et de sollicitude pour vos intérêts, mais qu'il vous soit une cause de scandale, c'est-à-dire une cause de péché, pour vous et pour les autres, ou pour les autres, et vous entraîne dans l'abîme par le contraste de ces mœurs déréglées, il vous est beaucoup plus avantageux, disent les pères, de rompre toute liaison avec lui et de renoncer aux avantages temporels que vous en retiriez, que de conserver près de vous une cause certaine de ruine en tenant aux avantages qui vous procurent ses parents et ses amis. Que donnera l'homme en échange de son âme ? Si pour faire plaisir à un membre de ma famille, si pour ne pas heurter une sensibilité, même légitime, je laisse quelqu'un dans le péché dont j'ai la responsabilité, je suis responsable d'un péché de scandale. Et notre Seigneur le dit bien, malheur par qui le scandale arrive. Il va le répéter plusieurs fois, malheur au monde à cause des scandales. Il vaut mieux pour vous entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil, un seul pied, une seule main, que d'avoir deux yeux, deux mains, deux pieds, d'être jeté dans la géhenne du feu. Donc cette phrase est très belle. Il faut couper avec les occasions prochaines volontaires de péché grave. Si je garde une occasion prochaine volontaire de péché grave dans ma vie de tous les jours, j'ai bien une occasion volontaire, une occasion que je vais chercher. Bien, je ne peux pas recevoir une absolution légitime parce que je garde une circonstance qui fait que je ne peux pas recevoir l'absolution n'ayant pas de contrition. Je me présente au confessionnal, j'accuse mon péché, mais je cache soigneusement que je suis dans une occasion prochaine volontaire de péché grave. Donc chaque fidèle connaît ce qui peut lui nuire, ce qui est pour son âme une cause de séduction, de tentation fréquente. Il vaut mieux qu'il vive dans la solitude que de perdre la vie éternelle pour les biens si fragiles de la vie présente. L'âme, c'est plus important que le corps. Alors ici, il y a d'autres comparaisons expliquées par les pères. Dans un autre sens, également raisonnable, on peut entendre par l'œil les prêtres qui sont comme l'œil de l'Église parce qu'ils en sont comme les sentinelles. Par la main, les diacres et les autres ministres par qui s'accomplissent ces œuvres spirituelles. Et les fidèles sont comme les pieds du corps de l'Église. L'Église est un corps mystique du Christ. Et aucun d'eux ne doit être épargné s'il devient une cause de scandale pour l'Église. Ou bien, autre comparaison des pères, l'action de l'âme, c'est la main qui pêche. La marche de l'âme, c'est le pied. La vue de l'âme, c'est l'œil coupable. Il faut les couper, les arracher, s'ils sont pour nous un sujet de scandale. Car souvent, les actions des membres désignent, dans les Saintes Écritures, les membres mènent. Donc si la main de mon âme, si l'âme, de le pied de mon âme, si l'œil de mon âme sont devenus contaminés par le libéralisme moderne, eh bien je dois faire quelque chose pour pas tomber en enfer, tout simplement. Alors ces scandales, évidemment, et ces offenses dont parle le Christ, ici sont les persécutions, les dérisions, les injures contre les bons. Aussi les mauvais exemples, les scandales, les fausses doctrines, les choses faites ou dites de manière déréglée. Car il y a beaucoup de choses qui sont bonnes et légitimes par elles-mêmes et qui deviennent inopportunes en raison du temps, du lieu ou quand elles sont faites devant des gens sans instruction, l'occasion devenant ainsi une occasion de scandale. Alors une petite note en bas de la page 19, une petite note importante. Le Christ enseigne ici trois choses concernant les scandales. Leur gravité par eux-mêmes et dans leurs conséquences, c'est-à-dire la mort spirituelle du pécheur, attention, et la mort spirituelle de celui qui est responsable d'un scandale direct et indirect. Le nombre, et le fait qu'on en parle beaucoup, le Christ nous enseigne aussi qu'il est important de les éviter, et indirectement, il nous enseigne aussi qu'il est difficile de les éviter, et surtout, qu'il est important de les éviter, qu'il est difficile de les réparer. Hein, pour réparer un scandale, c'est souvent impossible. J'ai vu des gens littéralement pleurer au confessionnal en disant, monsieur l'abbé, qu'est-ce que je dois faire? J'ai été trop faible avec mes enfants. J'ai laissé mes enfants faire du n'importe quoi quand ils avaient 18, 20 ans. Maintenant, ils vivent tous dans le concubinage jusqu'au cou. Ils n'écoutent plus leurs parents. J'ai plus aucune influence sur elles. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer mes bêtises, réparer le scandale énorme que j'ai donné en ne remplissant pas mon devoir d'État comme père de famille, par exemple, ou comme mère de famille? Et j'en ai vu qui pleurent toutes les larmes de leur corps, de se rendre compte que leurs enfants vivent dans le péché et risquent de mourir comme ça à cause du libéralisme des parents. Et dans certains cas, ils me disent, monsieur l'abbé, je ne peux plus rien faire, ils n'écoutent plus ce que je leur dis, ils ont quitté la maison, ils vivent dans le concubinage, ils vivent dans le péché et l'impureté jusqu'au cou, et je ne peux plus rien faire, ils ne répondent plus à mes coups de téléphone, ils ne répondent plus à mes lettres, je ne peux plus rien faire. J'ai essayé d'aller frapper à leur porte, j'étais mis dehors par eux, et je ne peux plus rien faire. Eh bien, madame, monsieur, vous pouvez encore prier, vous pouvez encore faire pénitence. Il faut jeûner, il faut pratiquer l'aumône, il faut pratiquer la prière, les trois moyens des pères, les anciens, justement, pour rattraper les conséquences de ces concupiscences. C'est vrai que dans bien des cas, on ne peut plus faire grand-chose, mais on peut toujours prier. Et j'ai eu des retours, avec la grâce du bon Dieu, des gens qui... après 10-15 ans de travail, de certains anciens traitants qui ont travaillé sur leur fiston ou leur fille pendant 10-15 ans, 20 ans parfois, qui finalement, avec la grâce du bon Dieu, ont réussi à les faire venir à une retraite. Et cet enfant qui vivait dans le péché jusqu'au cou, eh bien, finit par faire une bonne confession générale et Dieu aidant à changer de vie. Voyons maintenant en haut de la page 20, les versets 10 à 14 de Saint Matthieu chapitre 18. Gardez-vous, dit notre Seigneur, de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis, qu'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous le dis, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont point égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. Les phrases magnifiques du Dieu de miséricorde, là c'est une parabole de miséricorde, hein. Le bon pasteur. Notre Seigneur Jésus-Christ a 100 brebis, ça représente les fidèles, et puis il y en a une qui malheureusement s'est égarée, moralement parlant, qui est partie dans le péché. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va abandonner de façon provisoire les 99 autres dans les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée. Et il va passer toute sa journée et toute sa nuit à chercher la brebis qui s'est éloignée de lui pour essayer de la faire revenir. Malheureusement, la volonté du bon Dieu ne peut pas détruire le libre arbitre de la brebis qui s'est égarée volontairement. Mais l'Évangile explique bien qu'il arrive qu'il la trouve. S'il arrive qu'il la trouve, donc c'est conditionnel, s'il arrive qu'il la trouve, je vous l'ai dit, elle lui cause plus de joie que les 99 qui se sont point égarés. Quelle joie pour le prêtre, pour les confessions générales de retraite, de voir des gens qui ne se sont pas confessés parfois pendant des années, des années, des années, qui font la première confession pendant la retraite, première communion pendant la retraite, et qui reçoivent notre Seigneur Jésus-Christ comme un enfant de 5-6 ans à l'autel. C'est magnifique. Pour ça, je conseille beaucoup à tous ceux qui m'écoutent sur Internet et qui n'ont pas encore suivi les retraites de Saint-Ignace, de faire tout leur possible pour les suivre. J'ai encore une place libre pour la retraite du 18 au 23 mars. J'ai peut-être une place libre pour la retraite de Semaine Sainte, donc celle du 20, je dis pas de bêtises, du 15 au 21 avril, la retraite de Semaine Sainte. Et j'ai encore des places libres pour les retraites de septembre et d'octobre. Je ne peux pas prendre plus de 5, 6, en poussant les murs, 7 personnes. Il faut garder le caractère très ferme des retraites. Il ne faut pas être trop nombreux si je suis tout seul comme prêtre. En plus, je n'ai pas assez de place, étant limité par la taille du gîte que je loue. On a, avec la grâce du bon Dieu, fait déjà une première retraite. J'ai prêché une première retraite donc du 18 au 23 février. Il y avait 5 personnes qui ont suivi la retraite. Et avec la grâce du bon Dieu, c'était une très bonne retraite. Il faut remercier le bon Dieu Donc, n'hésitez pas à essayer de vous libérer pour venir suivre les exercices de Saint Ignace qui n'ont pas leur pareil pour convertir les âmes, pour permettre une bonne confession générale et pour remettre sur les rails une âme qui s'est fait contaminer par le libéralisme du monde moderne. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères sur cet évangile de miséricorde. Ces petits, gardez-vous de mépriser aucun de ces petits qui sont nouvellement nés en Jésus-Christ ou ceux qui ne sont, font aucun progrès et qui ont toujours comme des... Ces petits sont ceux, pardon, qui sont nouvellement nés en Jésus-Christ ou ceux qui ne font aucun progrès, qui sont toujours comme les enfants qui viennent de naître. Quelle est grande la dignité des âmes, puisqu'à chacune d'elles, aussitôt son entrée dans la vie, Dieu donne un ange pour veiller à sa garde. L'ange gardien. Il faut croire, eh bien, chers frères, à nos anges gardiens. Tout homme qui est passé sur la terre, même quelques secondes, même quelques jours, un enfant avorté, par exemple, un bébé vivant, dans, tout vivant dans le ventre, dans le sein de sa mère, et qui est coupé en morceaux par l'avorteur, eh bien, ce bébé a un ange gardien. Et comme il doit souffrir, ce pauvre ange gardien, de voir le massacre de ces 250 000 innocents qui sont massacrés dans le cœur, dans le ventre de leur mère par les avorteurs en France. C'est épouvantable. Et ce qui est encore plus épouvantable, surtout pour nous catholiques qui sommes capables de comprendre ces choses-là, c'est que ces bébés non seulement sont tués alors qu'ils sont parfaitement innocents, n'oublions pas que l'avortement est un crime qui crie vengeance contre le ciel, hein, comme l'homosexualité, c'est dans le catéchisme du catéchisme de Saint-Pédis, hein, un homosexuel qui pratique son homosexualité, je dis bien qui pratique son homosexualité, commet un péché qui crie vengeance contre le ciel, dit le catéchisme catholique. C'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme, il faut l'enseigner. Eh bien, le catéchisme dit aussi que le meurtre de l'innocence et l'avortement est un crime aussi qui crie vengeance contre le ciel. C'est terrible comme formule. Et donc, le drame, par exemple, de l'avortement, c'est pas simplement que cet enfant est démembré dans le sein de sa mère, c'est aussi que ce petit bébé, l'âme de ce petit bébé ne verra jamais Dieu. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, parce que l'âme de ce bébé est créée par Dieu avec le péché originel, puisque malheureusement, il n'a pas reçu la lumière du baptême. Et c'est ça le crime, encore plus grave. C'est pas simplement l'assassinat des enfants dans le ventre de leur mère. Un deuxième assassinat, c'est l'assassinat de l'âme de ce petit qui, par la faute des avorteurs, des mamans qui laissent les avorteurs tuer leurs enfants, par la faute de tous ces criminels, eh bien, le bébé ne verra jamais Dieu. Il sera au limbe pour toute l'éternité. C'est terrible. D'où la nécessité de baptiser les enfants le plus vite possible. Alors, n'écoutez pas Bergoglio qui raconte bêtise sur bêtise dans ce domaine. Non, attention, le baptême est nécessaire au salut, personne ne peut être sauvé sans le baptême. Il faut le baptême pour être enfant de Dieu, quelqu'un qui n'est pas baptisé ne peut pas être un enfant de Dieu, c'est pas possible. Un musulman n'est pas baptisé, et en tant que musulman, il ne peut pas être enfant de Dieu puisqu'il n'a pas le baptême, donc il ne peut pas être sauvé. Pour cela qu'il faut prier pour tous ces gens qui vivent loin de Dieu, pour qu'eux aussi trouvent le chemin qui mène au bon Dieu, c'est très important. Donc, je répète cette phrase magnifique des pères. Quelle est grande la dignité des âmes, puisqu'à chacune d'elles, aussitôt son entrée dans la vie, Dieu donne un ange pour veiller à sa garde. Tous les jours, les anges offrent à Dieu les prières de ceux qui doivent être sauvés par Jésus-Christ. Il est donc souverainement dangereux de mépriser celui dont les désirs et les prières montent jusqu'au trône de Dieu, du Dieu éternel et invisible, par l'entremise et par le ministère des anges. D'accord ? Donc, les anges sont là pour présenter les prières des saints au bon Dieu. Donc, ce berger qui va chercher la brebis perdue, c'est le créateur des hommes. Car le nombre 100 étant un nombre parfait, il fut le pasteur de 100 brebis lorsqu'il eut créé la nature des anges et celle des hommes. Dans toutes ces brebis créées et dont le pasteur, dont le berger est responsable, ce sont toutes les créatures raisonnables de Dieu. Donc, les anges et les hommes. Donc, dans cette seule brebis qui s'égare, il faut voir l'homme. Et dans ce seul homme se trouve compris le genre humain tout entier. Car tout le genre humain a péché dans la faute du seul Adam. Donc celui qui est à la recherche de cet homme, c'est Jésus-Christ. Et les 99 brebis qui sont laissées, c'est la multitude des esprits qui jouissent de la gloire des cieux. Donc ce sont les élus. Alors comme ils sont déjà au ciel, ces élus, ils ne peuvent plus se perdre. Et donc le berger peut les abandonner au moins pendant un certain temps, une certaine période de temps très brève, pour aller chercher la brebis qui s'est perdue et qui donc n'est pas avec les élus. Pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau, qu'un seul pasteur. La réparation du genre humain donne beaucoup plus de gloire à Dieu que la création des anges. Une phrase magnifique des pères, je la répète. La réparation du genre humain donne beaucoup plus de gloire à Dieu que la création des anges. Car si la création des anges est une œuvre admirable de la puissance de Dieu, la rédemption des hommes est bien plus admirable encore. Donc la rédemption des âmes par le mystère de la croix, par le mystère de la rédemption, est quelque chose de plus grand encore que la création des anges. Faut, mes bien chers frères, méditez toutes ces paroles. Méditez toutes ces paroles. Il y a bien des choses encore à dire. On continuera, si Dieu veut, la prochaine fois. Mais je vous conseille beaucoup, mes bien chers frères, ceux qui m'écoutent sur Internet, donc de relire ces textes. Relisez le polycopier. Donc on a vu page 17. Page 17, 18, 19, et on est au milieu de la page 20. Nous allons terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.